France Inter.
Écrivain, dramaturge, scénariste et actrice, Yasmina Reza a reçu en 2016 le prix Renaudot pour Babylone, en 2000 le Grand Prix du Théâtre de l'Académie française et cette année le prestigieux Cino del Luca pour l'ensemble de son œuvre, prix récompensant un auteur dont l'œuvre constitue un message d'humanisme moderne. D'habitude, je ne détaille pas trop les prix, mais comme le disent certains êtres aussi anciens que mon âme, ça en jette. On peut citer la cultissime pièce de théâtre Art, mais aussi Le Dieu du Carnage, adapté au cinéma par Roman Polanski, trois versions de la vie, Bella Figura, que Thomas Ostermeyer mettra également en scène en allemand, où James Brown mettait des bigoudis, pièce pour laquelle nous avions reçu ici le comédien Alexandre Steiger. L'on pourrait citer aussi Heureux les Heureux, Serge, dans la luge d'Arthur Schopenhauer, et pour ceux qui ne sauraient choisir, bonne nouvelle, un Quarto Gallimard l'a fait pour vous, en sélectionnant une dizaine d'œuvres de la portraitiste contemporaine, à la plume aussi drôlatique que profonde. Écriture resserrée, percutante, puissante, certaines phrases étant quasi aphoristiques. Le cerveau de Yasmina Reza est remarquable et impressionnant, son âme intègre. Leur propriétaire ne se brade pas, elle semble ce que les yiddishophones appellent un mensch, qu'on pourrait traduire par un homme honnête, brave, digne. Dans Récits de certains faits, ce mensch alterne souvenirs personnels et comptes rendus de procès auxquels elle assiste depuis plusieurs années dans les palais de justice de Douai, Nice, Dijon, Saint-Omer, Paris ou Genève. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Yasmina Reza.
Bonsoir. Je ris parce que votre présentation est telle que je n'ose plus rien dire. Je n'ai plus rien osé dire.
Oh, si, on a une heure. À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui?
Ah, ça commence
fort. Je vais à l'essentiel, pas de préliminaire intellectuel.
J'ai pensé à quelque chose d'un peu inavouable. Je ne pourrais pas répondre, non pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas.
C'est grivois ou...
Non, pas grivois, non. Non, grivois, à la limite, je...
Vous pourriez le dire?
Je pourrais éventuellement. Non, là, ça met en cause quelqu'un.
Ah oui, non.
Je ne peux pas.
Je comprends. Vous avez commencé à écrire des poèmes vers 7 ans. Est-ce que vous vous rappelez les thématiques?
Oui, c'était des thématiques très sombres. La vie, la mort... très sombre. Enfin, je me souviens d'un particulièrement, il n'avait aucun intérêt. Hein. C'était vraiment, il n'y avait pas de côté d'enfant surdoué du tout. Mais j'avais eu un prix parce que ma mère avait envoyé un truc sur la vie et la mort. C'était le prix Elle du journal Elle, et je l'avais eu parce que ils ont dit devant moi qu'ils étaient sûrs que c'était pas les parents qui l'avaient écrit.
Mais voilà. Donc ça n'a pas tant changé que ça les thématiques.
Non, j'avais déjà... oui, c'est vrai. Il y avait déjà les mêmes thèmes. Oui.
Vous étiez une enfant consciente de la mort?
Ah oui, oui.
Vous savez pourquoi?
Oui, probablement.
D'accord, je ne creuse pas. Vous dites, Yasmina Reza, ne pas aimer la solitude de l'écrivain. Est-ce que la mise en scène de théâtre pallie cela?
Oui, c'est juste. C'est vrai que la solitude de l'écrivain, c'est enfin, j'aime la solitude, mais celle de l'écrivain, elle est excitante sur le moment, mais elle a besoin d'être très vite contrariée pour moi. Par exemple, pour être plus clair, je ne pourrais pas écrire à la campagne seule. Je me morfondrais le soir, je serais totalement déprimée. Donc, je peux admettre la solitude de l'écriture si le soir je vais faire la bamboula ou si je vais me marrer après.
Est-ce que les idées viennent plutôt quand vous vous confrontez à la société ou lorsque vous êtes seul? Là, je ne parle pas d'écriture.
Oui, non, ça peut venir dans le brouhaha.
Vous trouvez que les écrits sont toujours plus intéressants que l'auteur lui-même et qu'ils devraient suffire?
Oui, définitivement, oui. Oui, dans un monde idéal, je laisserais voguer mes productions sans jamais intervenir.
Bon, je vous remercie d'être là ce soir. Tout à l'heure, j'ai parlé du mot « mensch » et dans une interview de 99... Vous dites ne vous être jamais vraiment considérée comme une femme et vous ajoutez dans l'ancien temps j'aurais adoré être soldat.
Ah oui, j'ai dit ça.
Oui.
On dit parfois des conneries.
Parfois, mais c'est rigolo de revenir dessus.
Oui. Oui, le côté soldat, c'est, je ne le dirai plus du tout. Sur le côté homme, j'ai souvent eu l'impression que c'était la part masculine chez moi qui tenait la plume. D'ailleurs, beaucoup de mes tout premiers romans, et des même pièces comme Art, où, je me mets dans la peau masculine, avec une très grande facilité. Mais aussi, c'est l'amusement du travestissement mental.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Yasmina Reza, vous publiez Récits de certains faits. Cela fait une bonne quinzaine d'années que vous allez assister à des procès par curiosité. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois ?
Oui, le premier procès que j'ai été voir, c'était le procès Viguier. Je pense que ce n'était pas le tout premier. Je pense que c'était peut-être même le dernier, en réalité, parce qu'il a eu plusieurs procès en appel. Je ne me souviens pas exactement, mais il a été jugé plusieurs fois. Et oui, le procès Viguier.
Est-ce que vous vous êtes déjà sentie voyeuse ?
Quand on va voir des procès, on est voyeur. C'est vraiment une des choses les plus... Parce que la vie des gens, enfin, notamment des prévenus, des accusés, est littéralement décortiquée. Ils sont mis à nu. Et puis, tous les témoignages... Enfin, on est voyeur, oui, bien sûr.
Vous dites que finalement, on finit par y voir ce que vous avez toujours interrogé, l'imperfection de la vie.
Oui. C'est pour ça que j'ai mêlé dans le livre les procès avec des scènes plus, disons, où les passions sont à plus basse intensité. La perfection de la vie se voit à tout endroit et à tout niveau. Et moi, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'hierarchie, en réalité. Même dans les procès, on est très vite, quand on a l'habitude d'y aller, on est chez soi. Ce n'est pas si différent, c'est juste un condensé. Des passions tristes ou gaies, des émotions très fortes ou plus intimes, c'est la même chose.
Oui, parce que vous dites finalement que les écrivains s'intéressent beaucoup aux faits divers en pensant qu'ils sont très loin d'eux, mais pas du tout.
Non, c'est le... Alors le fait divers est loin, l'acte est souvent assez loin. Mais si on se débarrasse du fait, les personnages qui composent, qui font le contour de l'histoire, qui la nourrissent, sont extrêmement proches. On ne sent aucune différence. Le vrai monstre qui serait différent de vous, moi, je ne l'ai pratiquement pas vu.
C'est presque inquiétant quand on voit certains crimes.
C'est inquiétant. C'est inquiétant, je ne sais pas. C'est troublant.
Le fil rouge, les fils rouges dans votre ouvrage, Yasmina Reza, de ce que j'ai ressenti, c'est la mort, et Venise, et je ne ferai pas de jeu de mauvais contient. Est-ce que vous voulez bien qu'on parle de la Grande Faucheuse ?
Ça me paraît inévitable. Oui, bien sûr, je veux bien parler de tout.
Alors, dedans, vous confiez photographier les vieux couples de dos à Venise et les imaginer mourir. Dans Hammer Clavier, vous parlez de votre fils, qui déjà enfant, vous l'imaginiez vieux. Dans Récits de certains faits, il y a votre premier agent étranger de 81 ans, Rainer Fitzenbacher, je prononce
bravo,
bien.
Bravo,
oui. Dont vous imaginez aussi la disparition. D'où vient cette obsession pour le temps qui passe, la dégradation et la mort ?
Oui, c'est surtout ça. C'est pas tellement l'obsession de la mort, c'est l'obsession du temps qui passe. Mais je ne comprends même pas comment on pourrait ne pas l'avoir. C'est pour moi, je l'ai toujours eu, toujours, même enfant. Le passage du temps ou nous dans le temps, c'est une question tellement essentielle, tellement. On ne ferait rien de la même façon si on avait plus de temps, si on vivait plus longtemps, moins longtemps. Moi, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit est à l'aune du temps.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
La mort, trouvez, j'en sais rien.
Peut-être qu'on serait des grosses patates sur canapé.
Non, je sais pas. Enfin, sur le plan de la création, je j'ai pas d'opinion là-dessus, mais c'est pas une bonne nouvelle de voir des gens qu'on aime disparaître. C'est pas une bonne nouvelle que les choses ne soient pas pérennes. C'est ainsi. C'est sûrement comme ça que ça doit être, et il y a une beauté là-dedans. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ? J'en sais rien.
Non, je pensais plutôt pour le passage à l'acte, mais pas pour le reste, évidemment. Votre première pièce de théâtre, écrite vers 25 ans, s'appelait « Conversation après un enterrement ». Qu'aimeriez-vous accomplir à tout prix avant le vôtre ?
Pardon, j'ai pas...
Qu'aimeriez-vous accomplir à tout prix avant de mourir ?
Ben, je pense que j'ai accompli. C'est pas trop mal ce que j'ai accompli.
Chouette.
Oui, non, il y a pas de projet extraordinaire à faire encore. Non, ce que j'aimerais, c'est pas de l'accomplissement, c'est de rester encore un peu créative, mais.
C'est un livre sur la mort, puisqu'il y a la mort de vos amis et la mort d'individus tués par les coupables que vous voyez dans les différentes cours d'assises. Ça, vous y pensez tout le temps à la mort ?
Non, 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 pas du tout. J'y pense même rarement. En tant que, c'est pas que je pense à la mort, c'est que tout est coloré par la certitude et la sensation de ce fait. Que rien ne dure et qu'il n'y a pas de pérennité pour rien.
Interprétation de Jean Müller, de l'Adagio d'Hammerklavier, sonate pour piano de Beethoven, qualifiée de chef-d'œuvre dans votre ouvrage Hammerklavier, Yasmina Reza, dans lequel votre père mort se fait engueuler par Beethoven en personne pour avoir osé jouer ce morceau. Il y a d'autres disparus dans ce livre, votre ancien ami et agent Martha. Je pense aussi au transport de l'urne funéraire dans Heureux les Heureux. Et je voulais savoir quel rapport vous entreteniez avec vos morts.
Un rapport constant, dans le sens où j'espère qu'ils sont toujours présents, parce que la seule façon de ne pas mourir est d'être présent dans le souvenir des autres, mais aussi de la drôlerie, parce que si on me lit, de toute façon la drôlerie est partout. Je ne pense pas que la mort n'est que tragique, elle est aussi parfois nécessaire, d'ailleurs. Ce qui était le cas pour mon père, il fallait qu'il meure, il souffrait, et c'était indispensable qu'il disparaisse. Mais il y avait énormément de drôlerie aussi dans ce massacre d'Hammerklavier au piano à l'aube de sa disparition. Enfin, et c'est... Voilà, c'est comme ça que j'envisage les choses. Moi, je m'interdis pas du tout de rire, de rien d'ailleurs.
Bah, dans Récit de certains faits, vous relatez plusieurs disparitions de vos amis ou de proches de vos amis. Et puis, à un moment, vous parlez de l'écrivain Roberto Calasso. Et vous racontez une anecdote très très drôle où vous avez l'impression qu'il s'ennuie terriblement avec vous lors de votre première rencontre et ça vous est confirmé par Milan et Vera Kundera. Vous avez toujours associé la drôlerie et le tragique. Vous le faites aisément ou vous y efforcez ?
Non, ni l'un ni l'autre. Oui, je le fais très aisément, si. C'est-à-dire, c'est mon état d'esprit. Je pense comme ça.
Vous voyez la blague dans tout ?
C'est pas le mot que je prendrais. Je dirais pas la blague. Je vois le dérisoire dans beaucoup de choses. Et je vois aussi le ridicule, le mien en premier.
Alors, vu qu'il semble que le deuil n'existe pas vraiment, est-ce que le chagrin est tout de même un peu amenuisé quand on fait des tombeaux de papier pour ses amis ?
C'est joli comme mot, tombeau de papier.
Merci.
Ouais, j'aime beaucoup l'expression. Est-ce que le chagrin est amenuisé ?
Un peu.
Non.
Non.
Non, non. Je pense que l'écriture n'amenuise rien, en fait.
Et ça ne soulage rien non plus ?
Non.
Pourquoi est-ce qu'on y est poussé, alors ?
Parce que ça sauve ce qui n'est pas pareil que de soulager. Moi, ça m'a sauvé l'écriture, la lecture aussi m'a sauvé. C'est-à-dire de pouvoir recréer le monde à travers dans une forme de démarche quelconque. C'est parce que l'écriture, c'est une recréation du monde à sa façon, ouais, à sa guise. Et il y a un très grand mystère, d'ailleurs, pourquoi on a besoin de refaire de lettres de papier, pour reprendre votre expression. Tout ça, on ne le sait pas, mais c'est ainsi. Mais de dire que ça... Et moi, ça m'a sauvée, parce que ça a sauvé mes jours, ça leur a donné un sens. Mais de dire que ça atténue des chagrins, ou que... Non, ça, je ne le pense pas.
Ça vous a sauvé de quoi?
Sauvé de la vie, tout court.
La vie, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
C'est une bonne nouvelle.
Mais c'est effrayant.
Si on a la chance d'avoir su l'apprendre, de ne pas avoir eu trop de tragédies. Enfin, je veux dire, c'est difficile de répondre à cette question sans cliché affreux. Mais
comment se passe la cohabitation avec vous-même?
Ça va.
Vous êtes bonnes amies?
Oui.
Dans votre livre, Yasmina Reza, il y a une partie intitulée « Amis que je n'ai pas rencontrés vivants ». Dedans, vous citez Diane Arbus, la photographe américaine suicidée en 71, et vous dites avoir pas mal d'amis chez les morts qui ont embelli votre vie. Qui pouvez-vous citer d'autres?
Oh, il y en a... Bon, parmi les écrivains, il y en a des tonnes. Dans les photographes, il y en a des tonnes, parce que j'adore la photo. Gary Vinogrand, bon, je cite Diane Arbus... Il y a évidemment, dès qu'on doit faire une liste, on oublie tout le monde, mais le nombre de gens qui ont embelli ma vie, qui m'ont et qui ne sont plus là et que j'ai jamais pu connaître ou que j'ai connu d'ailleurs, sont incalculables. C'est vraiment, et dans mes proches aussi, enfin, je d'ailleurs, dans les deux choix que j'ai fait pour vous ce soir, c'est des choix, c'est des œuvres qui sont, dont le sujet majeur est l'amitié. Et pour moi, dans ce livre aussi, Récit de certains faits, je pense que l'amitié est essentielle. Parce que ça vous en, les amis embellissent définitivement votre vie.
C'est, je vais dire un cliché, mais une famille choisie.
Oui.
Je le pense aussi, c'est pour ça que je me permets de le dire.
Mais oui.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Yasmina Reza, je ne vous ai laissé aucun répit. On a parlé de la mort d'entrée de jeu. Et j'aimerais, pour clore le chapitre de votre rapport à la mort, que vous nous lisiez un petit extrait des mots de la narratrice dans votre ouvrage Babylone. Parce que j'aime bien entendre les écrivains lire des extraits de leurs livres.
Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Je ne pourrais pas dire que j'ai su être heureuse dans la vie. Je ne pourrais pas me donner 14 sur 20 à l'heure de ma mort, comme ce collègue de Pierre qui avait dit « Allez, disons 14 sur 20 ». Moi, je dirais plutôt 12, parce que moins, j'aurais l'impression d'être ingrate ou de blessée. Je dirais 12 sur 20 en trichant. Quand je serai sous terre, qu'est-ce que ça changera? Tout le monde se foutra que j'ai su ou non être heureuse dans la vie, et moi, je m'en foutrais pas mal.
Comment s'est déroulé l'accouchement?
Lily est née à l'atelier, j'ai accouché seule.
Pourquoi vous ne vous rendez pas à l'hôpital?
Je sais pas, j'étais dans un trou noir. Je sortais pas. Je voyais personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger.
La protéger de quoi?
De la malveillance.
Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous sentez que l'accouchement est imminent?
J'étais inquiète. J'ai eu peur de ne pas y arriver.
Extrait du film Saint-Omer d'Alice Diop, inspiré de l'affaire Fabienne Cabou, qui a abandonné son bébé sur une plage de Berck-sur-Mer, la laissant se noyer par la marée montante. Yasmina Reza, vous avez assisté au procès. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez perçu quelque chose de l'humanité en vous asseyant dans toutes ces cours d'assises? Ou c'était des choses que vous saviez déjà?
Cette question est très... Non, je vais quand même essayer de répondre. Je savais déjà. Il y a rien que j'ai pu découvrir de ce que j'intuitionnais de l'humanité. Tout était confirmé, mais ce qui en revanche est presque un sujet intarissable. C'est toutes les nuances que l'humanité prend à... C'est l'inextricable assemblage des gens entre eux. Tout ça, c'est tout le temps neuf. On peut pas l'avoir pensé a priori. Mais moi, rien ne m'étonne des hommes.
Alors, sans vous étonner, est-ce que ça a modifié, en revanche, votre regard sur l'humanité ? Votre rapport à elle ?
Je crois pas.
On remarque dans vos comptes rendus que la plupart des criminels ont eu une enfance sordide. Ça paraît cliché.
Ça, c'est vrai. Et ça, je m'en doutais, mais je l'ai découvert véritablement. C'est-à-dire que il y a quelques exceptions, même dans mon livre, où y a un homme qui est devenu une sorte de serial killer et rien ne le prédisposait dans l'enfance à ça. Enfin, en tout cas, rien sur lequel on ait pu mettre... Mais la plupart du temps, c'est des enfances abominables.
Est-ce que vous connaissez le site Murderpedia ?
Non.
C'est le Wikipédia des tueurs en série. Ah. Et c'est assez fascinant. Et tout à l'heure, on parlait de voyeurisme. Et j'aimerais parler de curiosité morbide que je pense la majorité de la population partage. Pourquoi pensez-vous, Yasmina Reza, qu'on soit aussi fasciné par les tueurs et les crimes ?
Parce que je pense qu'on est fasciné par la transgression. Tout simplement. C'est-à-dire, dans notre comportement de tous les jours, il y a un surmoi permanent, il y a la contrainte morale qui fait qu'on marche droit, on déraille pas. Mais moi, je suis très fascinée par les gens qui ont la capacité de dérailler et de transgresser. Plus dérailler que transgresser, d'ailleurs. C'est moins intéressant, la transgression, que le déraillement. Le déraillement, c'est répressible, quelquefois. Et moi, j'ai de la pitié, de la compassion. Je sais pas, qu'un de mes enfants m'a dit, en lisant, mes enfants lisent au fur et à mesure les pauvres, ce que j'écris. Et ils me disent, il faudrait maintenant que tu arrêtes d'être tout le temps compatissante avec les accusés. Il faudrait que tu vois, voilà. Et c'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs, pas du tout même. Mais c'est vrai que je comprends qu'on puisse, en m'entendant, quand j'étais dans le processus de l'écriture, c'est vrai que j'avais tendance toujours à avoir une compréhension de ce côté-là.
D'ailleurs, vous dites on note souvent votre cruauté dans vos ouvrages, mais vous dites déjà, un, que la vie est cruelle, et deux, que vous êtes en totale empathie avec vos personnages.
Alors, je ne sais pas, ce mot me poursuit depuis toujours, et je ne comprends pas d'où il vient. Vraiment, je me sens tout sauf cruelle, pas du tout cruelle avec les personnages, je ne comprends pas, et c'est toujours dit comme un compliment, alors que pour moi, la cruauté n'est pas du tout un compliment, et surtout, c'est faux. Il y a deux mots que je récuse totalement dans certaines critiques, c'est cruauté et satire. D'ailleurs, ça va quelquefois ensemble.
Pourquoi satire ? C'est l'ironie, donc ça manque de tendresse ?
Oui, non. Quand on dit satire, on a l'impression que l'auteur, l'écrivain, est en surplomb, qu'il est là pour se moquer.
Pasticher. Ouais.
De gens qui lui seraient en quelque sorte inférieurs. Enfin, moi, je n'écris pas du tout comme ça. Je suis dedans. J'écris sur moi, démultiplié. Voilà.
Ça, vous l'avez ressenti même avec les personnages réels que vous dépeignez ?
Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. D'ailleurs, le choix des personnages réels, c'est parce qu'ils me touchent, c'est parce qu'ils me ressemblent. Et parce qu'il y a des gens. Par exemple, il y a des procès où je suis allée et où je n'ai rien écrit.
Il y a des réflexions sur la justice aussi dans votre ouvrage. Vous parlez de l'asservissement aux humeurs de l'époque, du triomphe de la moraline, du manichéisme. Et donc, le fait que pour la justice, le mal s'explique, c'est pratiquement le contraire de la littérature.
Oui, alors ça, je le dis pour un procès, c'est vrai. Il y a quelquefois des juges qui sont très au-delà de ça, mais oui, la justice est infiniment poreuse à l'air du temps, trop. C'est bien qu'elle le soit, mais je trouve un peu rapidement quand même.
Est-ce que vous croyez en la justice ?
C'est une vaste question, parce que est-ce que je crois en la justice ? Je crois, oui, je crois qu'il faut la justice, qu'il faut tout ce décorum, qu'il faut toute cette ordonnance. Je pense que c'est bien. Après, est-ce que la justice rend la justice ? Je n'en sais rien.
Parfois, vous résumez toute une vie en deux phrases, ce qui m'a fait penser à De sang froid de Truman Capote qui revient sur le massacre d'une famille entière par deux types qu'il a interrogés en prison. Avez-vous adapté votre style au contenu ou est-ce que c'est le contenu qui l'a dicté? Et si j'ai tort dans les deux cas, est-ce que vous pensez que votre style change d'un ouvrage à l'autre?
Alors, vous avez tort dans les deux cas, c'est sûr, parce que j'adapte jamais mon style et mon style. Il n'y a pas. C'est même pas quelque chose à laquelle je pense, auquel je pense. J'écris comme je dois écrire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors après, est-ce que. C'est pas à moi de le dire. Peut-être qu'il y a des livres qui sont écrits un peu différemment. C'est possible. J'ai pas le regard sur ce que je fais.
À un moment, vous vous mettez à la place des accusés avec une ancienne professeure d'histoire-géographie. Vous avez un tribunal à l'intérieur.
Ah oui, bien sûr. Oui, oui.
Et c'est plutôt l'avocat de la défense ou l'autre qui gagne?
Non, dans mon tribunal intérieur personnel, je suis procureur.
Ah oui?
Oui.
Vous êtes sévère?
Très.
Vous vous condamnez souvent?
Ben oui.
Est-ce que vous éprouvez souvent de la culpabilité?
Non.
Ah oui? Alors, donnez-moi le secret.
Non. Je... Enfin... Très rarement, de la culpabilité. Mais, par exemple, dans cette histoire-là, oui. Non, parce que je trouve que ça ne sert à rien, la culpabilité. C'est un sentiment merdique. C'est un sentiment qui vous... Il ne sert à rien. Il vaut mieux regarder en soi réellement les choses comme elles sont. Savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, et la culpabilité est inopportune, elle est embarrassante.
Vous la différenciez de la honte?
Ah, c'est très dur d'échapper à la honte. Ouais, non, c'est pas pareil.
Je suis d'accord.
C'est pas pareil.
Il y a une ambiguïté dans vos récits, Yasmina Reza, c'est ça qui en donne tout le sel, c'est que certains criminels peuvent émouvoir, et certains d'ailleurs ne sont pas criminels, il y en a un qui est très émouvant, qui est simplement Monsieur Louette, un type qui n'a pas porté secours à un clochard décédé devant lui, et vous écrivez ceci, Monsieur Louette, qui n'a pas assez de consistance à ses propres yeux pour se mêler.
Ouais, c'est un très beau, très très beau personnage, vraiment, Monsieur Louette, il m'a ému aux larmes, c'est ça aussi les procès, c'est que Monsieur Louette serait passé inaperçu définitivement pour moi si j'avais pas été au procès d'un autre qui était l'accusé. Enfin, je veux pas le citer, mais et qui était aussi un homme très attachant et vraiment intéressant. Mais Monsieur Louette, je ne l'aurais jamais vu, jamais rencontré, parce que nos chemins ne pouvaient pas se croiser. Et la chance de cette démarche que j'ai fait, c'est de me mettre en relation avec ce genre de personnages. Et tout de suite, j'ai envie de les mettre à l'honneur avec l'écriture. Enfin, c'est un peu prétentieux de le dire à l'honneur, mais d'écrire sur eux, en tout cas.
Mais par exemple, à un moment, vous décrivez un crime raciste, c'est une attaque au couteau faite par une certaine Dalila, de mère marocaine et de père algérien. Et donc, évidemment, au début, le lecteur est contre elle. Et puis, finalement, à un moment, on parle de la difficulté de son enfance, et vous dites le fait que les mots passent inaperçus, et qu'on n'ait absolument pas le temps de considérer qu'il est possible de devenir quelqu'un de meilleur, car dans la salle, les gens attendent une autre affaire, puis une autre. C'est très important, ça.
Mais moi, elle m'a énormément émue, ce personnage, vraiment, Dalila Ezitouni. J'ai eu une tendresse infinie pour elle, et pourtant, elle avait poignardé un noir, elle l'avait traité de babouin, elle avait été effroyable. Mais bon, l'acte et la personne, c'est deux choses très différentes.
On est frappé aussi parfois par la beauté de certaines plaidoiries d'avocats. J'imagine que ça vous a touché en tant qu'écrivain.
Bien sûr.
Béda, tu traverses pas, tu marches seulement tout droit, et tout le monde se carambole. Tu prends ta mère dans tes bras, tu la soulèves et la tournoies, tu fais des choses qu'on fait pas. Je voyais ta queue de cheval, ta tête d'oiseau à binocle et tes bracelets en toc. C'était en l'an 2000, y a eu aucun changement, tu me plais toujours autant. Parce que t'es super génial, et quand tu te trimbales, t'es rare dans les endroits
entend le titre Eda de Nathan Zanaga. Et Yasmina Reza, c'est votre choix musical. Moi, j'ai un peu enquêté et j'ai vu qu'il avait fait la musique de plusieurs de vos mises en scène, alors je me suis dit que c'était peut-être votre fils.
C'est mon fils.
Ah oui. Vous voulez dire un mot sur sa
alors,
musique ?
Je n'ai pas choisi cette chanson parce que c'est mon fils, hein, du tout. J'ai choisi cette chanson parce que je la trouve extrêmement touchante. Et elle, c'est une chanson, c'est assez rare, les chansons sur l'amitié. C'est une amitié qui commence à l'enfance, qui se termine, qui continue à l'âge adulte. Et je l'aime musicalement, bien sûr, mais j'aime aussi beaucoup le texte qui est à la fois très innocent, très, très pur, très, qui respire une forme de sincérité. Moi, j'adore ça dans les textes de chansons. Et quand vous m'avez dit de prendre un objet, je me suis dit, tiens, voilà, je veux faire écouter cette chanson, absolument pas à cause du lien familial, mais cette chanson, je l'écoute, je la réécoute, et je l'aime vraiment beaucoup.
L'autre chose que vous avez choisi pour l'émission, Yasmina Reza, c'est un livre, c'est Bande de héros de Philippe Ridet, paru aux éditions Équateur.
Oui, voilà. En fait, c'est bien sûr que ça ne ressemble pas du tout à Eda comme écriture, mais il y a aussi le Bande de héros est un livre profondément sur l'amitié. Et Philippe Ridet, qui était journaliste au Monde, grand reporter au Monde pendant des années, est devenu un écrivain totalement passionnant. C'est assez rare hein, de changer comme ça de casquette et que ça marche aussi bien. Moi, je trouve qu'il est en train de... On dit souvent que la géographie, c'est l'écrivain. Et c'est entièrement vrai pour lui. Il trace un territoire autour de la province, en réalité Bourg-en-Bresse. Et c'est à la fois nostalgique, mélancolique, drôle... extrêmement personnel, il y a des beautés d'écriture très grandes, les personnages sont formidables, très attachants, franchement, c'est aux éditions Équateur, Bande de héros, je le recommande très grandement.
On le mettra sur le site.
Juste un sosie de toi chaque nuit ne m'apporterait pas l'oubli. Daisy, l'espoir d'une vie craque entre mes doigts jaunis. Rejoins-moi ce vieux mélodrame. Tu sais, celui qui tire les larmes. Tu allais toujours bien trop loin, comme ces vieux acteurs italiens. Rejoins-moi ce vieux mélodrame avec ton regard qui désarme. Verser sans bruit tous les pleurs de mon dépit. Daisy, oh oui, reviens Daisy. Mes poings frappent aux portes de la nuit. Que résonne l'étendue de nos envies. Oh Daisy, reviens-moi Daisy, car je te sens qui crotte les grains de ma folie.
Christophe, le morceau Daisy dans la 20e heure sur France Inter. Je suis avec Yasmina Reza qui vient de publier Récit de certains faits. Là, on a beaucoup parlé de mort et de crime. Il y a l'Italie aussi dedans, Venise notamment, un endroit où vous vivez de temps en temps. Et j'ai eu l'impression que l'Italie, c'était la pulsion de vie qui s'opposait à tout le reste. Même dans une dispute que vous décrivez avec un architecte, une dispute totalement absurde et drôlatique. Et ça s'oppose à toute la gravité, la morbidité.
Mais alors, j'ai pas du tout cette impression, moi. J'ai pas l'impression qu'il y a de la morbidité dans ce que j'écris, déjà.
Ah bon, mais quand, par exemple, vous décrivez quelqu'un qui dépèse toute une famille, je qualifierais ça plutôt de morbide.
Oui, mais je le fais pas de façon morbide. Je
l'ai... Ah, mais non, parce que vous êtes drôle.
Oui, voilà. Non, je veux dire, c'est l'écriture. L'écriture. Va à l'encontre de la morbidité du sujet. Donc, enfin, elle est tonique, elle n'est pas non plus drôle. Hein. Il n'y a aucune drôlerie dans la narration de ce procès terrible. Mais enfin, elle est énergique. Moi, je vois beaucoup de pulsions de vie dans la façon dont je raconte, d'une manière générale. Je ne vais pas chercher la pulsion de vie en Italie, je ne crois pas.
D'accord.
Non, je ne crois pas. Quand y a mon déjeuner avec André où il me parle de littérature, c'est à Paris. C'est pas... Et là, c'est...
J'ai fantasmé, Yasmina Reza. Je vous parle d'une autre chose qui m'a frappée. Alors, il y a beaucoup de témoins dans les cours d'assises qui s'embrouillent ou se contredisent. Pas de commentaire.
C'est la beauté, ça. C'est la grande beauté de l'être, de d'être tout à coup pris dans des filets où on ne sait plus qui on est, on ne sait plus de... Qu'est-ce qui est bien pour soi? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'il faut? Comment il faut être? Comment il faut se tenir? Comment... Bon, moi, ça me touche infiniment, ça. C'est ce déséquilibre qui... Ce sont des gens qui, déjà, sont pas très sûrs d'eux, mais qui, dans l'enceinte du tribunal, deviennent complètement paumés, complètement perdus. Je comprends ça très fort, moi. Moi, je suis comme ça en promotion. Hein, là. Donc, je suis beaucoup plus articulée, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à faire que ça se voit pas. Mais en fait, j'ai cette même impression d'être pris dans un filet, de faire un truc que au fond, je n'aime pas du tout faire.
C'est ce que vous êtes en train de faire?
Oui.
Ah, je suis désolée, c'est très pénible pour vous?
Ben, c'est pas du tout avec vous
non,
que
non,
c'est
vous
pénible, c'est en soi. En soi, venir parler de moi et de mon travail est atrocement pénible. Je n'en vois pas l'objet. Je ne comprends pas qui fait ça. Qui est la Yasmina qui fait ça? Et donc, moi, je reste à peu près articulée. Mais les gens dans les tribunaux sont vraiment perdus.
Vous parlez aussi des victimes qui n'agissent pas de façon rationnelle, comme par exemple les femmes qui accusent les hommes de viol, mais qui, juste après l'acte reproché, leur envoient des textos d'amour enflammés.
Alors, c'est pas tout à fait dans cette chronologie-là que je dirais.
Allez-y.
C'est-à-dire que juste après... Si, c'est juste après l'acte qu'elle envoie des... Mais c'est pas juste après la conscience du viol pour lequel il faudrait porter plainte. La plainte vient après. Et c'est là toute l'ambiguïté des choses. C'est-à-dire que si il y avait eu viol et s'il y avait eu pardon, tendresse, quelquefois, il n'y aurait pas eu de plainte. Et c'est pour ça qu'au tribunal, c'est compliqué, certaines de ces affaires.
Il y a une question qu'on peut se poser, finalement, c'est la question de la vérité. Est-ce qu'on peut savoir quoi que ce soit?
Non.
Bon, bah au moins c'est réglé.
Comment s'appelle le peintre Antrios, connu? Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs.
Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios.
Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs.
J'étais sûr que tu passerais à côté.
Tu as acheté cette merde de 200 000 francs.
Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non content d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde ?
Yasmina Reza, on a dû vous passer 1000 fois un extrait de votre pièce Art, créée en 1994 pour Pierre Van Neck, Pierre Arditi et Fabrice Lucchini. Ça a été au programme du bac, la pièce est traduite en 20 langues. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être lassé qu'on vous en parle ?
Non.
Non ?
Non, 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 non.
Vous souriez pendant l'extrait ?
Oui, parce que je suis heureuse d'entendre leur voix.
Bon, j'ai utilisé cet extrait pour introduire l'importance de l'art et des références artistiques dans vos écrits. Et vous parlez notamment, et ça c'est parce que j'aime bien qu'il y ait des recommandations pour les auditeurs et qu'ils aient envie de lire plein de choses en sortant de l'émission, dans Récit de certains faits, vous parlez d'Absalon, Absalon de Faulkner. Vous voulez bien nous dire un mot dessus ?
Ben, il vaut mieux lire Récit de certains faits et voir ce qu'un ami à moi ressent quand je lui parle d'Absalon, Absalon.
Alors, vous avez comme premier et définitif amour littéraire Les Hôtes de Hurlevent d'Émilie Brontë. Je ne vais pas vous demander de parler de ce livre. J'ai bien compris, je m'adapte à vous. Roberto Calasso a le même goût que vous. Est-ce que vous pouvez juste recommander un ou deux titres de Roberto Calasso, qui est un grand écrivain peu lu ?
Alors,
La Folie Baudelaire, peut-être ?
Pardon ?
La Folie Baudelaire ?
La Folie Baudelaire, mais surtout, je pense à un, et là, tout à coup, j'ai une confusion mentale entre le titre italien et le titre français. Ah oui, voilà, je l'ai. Je conseille très vivement L'innommable actuel.
Très beau titre.
Oui.
Je suis embêtée parce que là, je voulais vous faire parler de Svetlana Alexievitch.
Oui.
Et vous ne voulez pas en parler ?
Ah non, c'est pas ça. C'est que sur Absalon, je n'ai rien d'intéressant à dire. Parce que c'est vrai que j'ai pas des accointances énormes avec Faulkner. À part une lumière d'août, c'est un univers un peu trop touffu pour moi. Non, Alexievitch pour moi est un génie absolu. Là, je recommande à 100% La fin de l'homme rouge et d'ailleurs tous ses livres.
Et vous écrivez, je cite l'œuvre et on termine justement par l'œuvre, immense livre, somme de vie, d'endurance et d'ombre. Merci beaucoup Yasmina Reza.
Beaucoup.
Vous êtes libre maintenant. Votre texte, Récit de certains faits, est paru le 4 septembre aux éditions Flammarion. Vous lirez avec Michel Esco le 3 octobre à 19h15 des extraits du livre à la librairie Le 9e Pays à Paris. Une anthologie d'œuvres choisies, On vient de loin, est paru chez Quarto Gallimard en avril dernier. Votre pièce culte Art sera donnée le 6 novembre au théâtre de Suresnes Jean Villard dans une nouvelle mise en scène par François Morel qui jouera aux côtés d'Olivier Broche et Olivier Saladin. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Irma Daniche et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Adèle Caglar. À demain, 20h10.